Mais là, on va approfondir cette question en suivant la même processus que tout à l'heure, c'est-à-dire trois interventions qui vont s'enchaîner et se compléter, et puis ensuite une discussion avec la salle. Donc, Thibaut Perrin.
Alors, bon, merci. Alors, avant de commencer, merci encore à l'Université Nanterre et pour nous avoir invités et nous donner l'opportunité de présenter aujourd'hui le smart working, qui est une thématique que l'on a abordée assez récemment, je dois dire. Alors, avant de commencer, alors, qu'est-ce que le smart working? On en entend beaucoup parler, et finalement encore plus depuis évidemment la crise du Covid. Alors, le smart working, c'est un modèle organisationnel qui est dit peu conventionnel, parce que peu d'organisations l'ont adopté, qui est caractérisé par une grande flexibilité dans le choix des espaces, temps et des outils de travail. Alors, attention, quand on parle de flexibilité, flexibilité à l'initiative du collaborateur. J'appuie bien sur cette notion qui est centrale dans le smart working, puisque c'est une flexibilité à l'initiative du collaborateur et non du management. Alors, dans l'entreprise de Vecpessoir dans laquelle je travaille, nous sommes appuyés sur une étude scientifique qui a été menée, l'étude franco-italienne, qui a été menée à ce titre, et qui a identifié finalement quatre catégories de smart working à partir de trois principaux éléments d'innovation. Dans cette étude, ils observent donc les trois principaux éléments d'innovation sont la reconfiguration des lieux de travail, donc l'espace de travail. Et vous pouvez bien imaginer que pendant la crise du Covid et avec les confinements que l'on a vécu, la reconfiguration des espaces de travail est un élément fondamental. Les outils digitaux, donc les outils du numérique, ça peut être Microsoft Teams que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui, mais ça peut être aussi tous les outils qui interagissent avec les salariés. Et enfin, les pratiques RH, qui sont les pratiques RH, les pratiques managériales, qui vont accompagner ce modèle conventionnel, non conventionnel. Alors, dans cette étude, qu'est-ce qu'il est observé? Donc, c'est une étude qui a été menée auprès de 100 DRH menée auprès de 4197 salariés. Donc, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, que finalement, 39% des entreprises ont mis en place une reconfiguration des lieux de travail, 59% des outils digitaux et 67% des pratiques RH. Donc on voit que finalement, les pratiques RH dans ces organisations qui adoptent le smart working ont une place majeure. De là, ils ont à partir de ces trois éléments, les chercheurs ont mis en avant quatre types de smart working. D'abord, il y a les smart workers inconstants. Ce sont des organisations qui n'investissent dans aucun des trois éléments. 28% des organisations participantes à l'enquête. Et en règle générale, ce sont des organisations avec un faible capital humain. Capital humain, c'est le coût du travail divisé par le nombre de collaborateurs. D'un côté, nous avons les smart workers analogiques, que l'on retrouve principalement dans le secteur bancaire, avec un investissement sur les pratiques RH et le cadre de travail, peu ou pas d'investissement sur les outils digitaux, 13% des organisations participantes. À l'opposé, vous avez finalement les smart workers digitaux, avec un investissement sur les outils digitaux, les pratiques RH et, de l'autre côté, peu d'investissement sur l'environnement de travail. Et là, ce sont 33% des organisations répondantes. Et donc, au final, ce qui a intéressé les chercheurs de cette étude, c'est le fait que il y a des organisations smart workers complets qui investissent sur les trois éléments, 26% des organisations en participant. Et donc la caractéristique principale, c'est que ce sont des organisations qui ont un fort capital humain, c'est-à-dire que le coût du travail est significatif. Donc on peut s'attendre à des rémunérations au-delà de la normale du fait qu'on doit avoir en règle générale des collaborateurs de talent. Et c'est là où cela m'a intéressé, c'est que ce sont des organisations majoritairement, l'avait dit Wolfe Stewart,
ah oui, tu l'as vu,
présenté au dimanche de cette conférence, les organisations où il fait bon travailler sont des organisations qui impliquent le collaborateur dans l'élaboration des pratiques RH, de l'environnement de travail, et puis de manière générale aussi sur les outils digitaux. Autre, et donc, un autre élément qui est assez intéressant dans cette étude, c'est que finalement, on observe qu'à chaque fois, on a à minima deux éléments qui se retrouvent dans chacune des quatre catégories, comme je vous l'ai présenté, mais qu'à chaque fois, l'élément pratique RH, c'est-à-dire le fait de mettre en place des pratiques RH, est majeur. À titre d'exemple, les pratiques RH qui sont mises en place, ce sont évidemment la formation des collaborateurs pour s'adapter à des nouveaux outils digitaux, mais c'est là où c'est assez intéressant, c'est l'adaptation majeure de pratiques qui visent à impliquer les collaborateurs, pratiques que l'on observe finalement dans notre, d'ailleurs dans notre outil d'évaluation qui s'appelle le Culture Audit, outil que l'on utilise pour évaluer les entreprises où il fait bon travailler, où dans, justement dans cet outil, vous avez un tiers des pratiques qui sont évaluées qui sont dédiées à l'écoute des collaborateurs, à la communication, mais surtout à l'écoute. L'écoute que, qui dans le cadre de cette étude, apparaît à travers l'utilisation des verbatims de l'enquête Great Place to Work, puisqu'à la fin de notre enquête, nous avons deux questions ouvertes. Une qui demande aux collaborateurs qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre... Qu'est-ce que vous feriez pour faire que votre entreprise soit une entreprise où il fait bon travailler? Et qu'est-ce qui fait qu'à l'heure actuelle, vous estimez que c'est une entreprise où il fait bon travailler? Alors, je vous parle du smart working parce que alors, l'étude peut paraître... finalement, on pourrait se dire, ben, l'étude, ok, elle date un petit peu et aujourd'hui, le sujet n'est pas d'actualité. Enfin, j'imagine... Vous doutez bien qu'avec la crise du Covid, c'est plutôt d'actualité. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons 7000 accords sur le télétravail déposés sur le site de Digifrance, soit deux fois plus par rapport à 2020. Et ce que l'on observe, nous, en tout cas, en interagissant avec nos clients, c'est que vous avez différents types d'approches du télétravail dans les organisations. Le premier, c'est le télétravail généralisé à l'initiative du management. Pour rappel, je vous l'ai dit au début de ma présentation sur smart working, c'est une flexibilisation à l'initiative du salarié. C'est-à-dire que le salarié, il a le choix sur les pratiques RH, les outils digitaux, le temps. Et donc, lorsque le télétravail est généralisé à l'initiative du management, cela nuit à la confiance entre collaborateurs et manager, à la créativité, c'est-à-dire on voit que l'IDEM a abandonné le télétravail généralisé. Et enfin, ça génère du stress. Ce qui nous intéresse, c'est que de nombreuses entreprises qui font partie de notre palmarès vont mettre en place plutôt un équilibre, une juste dose avec l'hybridation. C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver un juste milieu en mettant, encore une fois, le collaborateur au centre de cette juste dose, de cette évaluation pour s'assurer que finalement ce nouveau mode de travail qui met en place et met à honneur le digital, le numérique et le télétravail principalement, eh bien, ne soit pas une souffrance pour le collaborateur, mais au contraire l'opportunité de lui laisser avoir un équilibre vie pro vie perso, par exemple. Et donc vous avez par exemple chez Colliers la mise en place de ce qu'on appelle le Figital, qui est encore une fois à l'initiative du collaborateur, où le collaborateur finalement a le choix sur son horaire de travail, a le choix de rester à la maison, et on va fixer finalement 2 à 3 jours de télétravail par semaine à minima pour s'assurer aussi qu'il y ait quand même des échanges au travail. Alors, pour moi qui travaille sur... moi j'ai effectué ma thèse de doctorat sur la confiance envers le management, à travers les données de Great Place to Work. Et donc, ce qui m'a intéressé, c'est le fait d'aborder la confiance, parce que sans confiance, pas de pratique RH. C'est-à-dire qu'en gros, les pratiques RH sont désincarnées. C'est-à-dire qu'on impose des pratiques RH aux collaborateurs, et ce collaborateur qui ne va pas les adopter. Pourquoi? Parce que si vous ne faites pas confiance à votre manager, votre manager va vous présenter un nouvel outil, par exemple, de Google Teams, par exemple, vous vous retrouvez le matin, vous vous connectez, vous avez votre icône qui est verte ou qui est rouge en fonction pour dire si vous êtes disponible ou pas. Si vous n'avez pas confiance envers votre manager, vous savez très bien que ça va être un outil de contrôle. Par contre, si vous avez confiance envers votre manager, vous savez que typiquement, l'outil n'est pas là pour contrôler, mais plus pour avoir l'opportunité de justement avoir un équilibre des vies. Alors, comme je vous ai expliqué, le smart working, les pratiques RH ont un rôle central, puisque, et parmi ces pratiques RH, je vous ai mis en avant le rôle de l'implication des collaborateurs. Et comme je viens de vous l'expliquer, sans confiance, pas diffusion des pratiques RH. Une des problématiques que l'on a dans la société, je pense, ici, alors je vous ai mis l'image d'Antonio Guterres, qui avait fait une adresse en 2018 à la Nations Unies en disant qu'il y avait un déficit mondial de confiance. Ça, on le voit hein, dans les enquêtes, année après année, la confiance diminue. On le voit dans les organisations. Ici, vous avez une enquête qui a été menée par Hélène Edelman. Et ce que l'on voit, alors ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à ce qu'on peut imaginer, la confiance diminue d'un point de vue sociétal, mais étant donné que la confiance, elle est avant tout une relation humaine, au plus on se rapproche de l'individu, donc l'organisation dans laquelle il travaille, au plus la confiance augmente. Et c'est pourquoi, finalement, vous avez un niveau de confiance qui était à 51% envers les médias, 53% envers les gouvernements, et à 76% à l'égard de l'employeur. Et donc, pour finir, pourquoi je vous parle de smart working, pratique RH, confiance? Parce que ce qui est assez intéressant, c'est que lorsqu'on part du collaborateur, c'est-à-dire que le smart working, encore une fois, c'est la flexibilité à l'initiative du collaborateur. On sait que cela a un impact sur les pratiques RH, l'adoption des pratiques RH, in fine sur des KPI. Alors quand on parle de KPI, ce sont des indicateurs sociaux. Donc il y a des indicateurs sociaux qu'on utilise en gestion des ressources humaines, principalement c'est l'absentéisme et le taux de roulement, c'est-à-dire le nombre de départs l'année passée. Et on sait que derrière, ça a un impact aussi sur la performance financière et commerciale. En tout cas, ça a été le sujet de mes travaux de recherche, puisque j'ai observé que, en gros, lorsque la confiance envers le management est supérieure à la normale, cela résulte à 6 points de profitabilité en plus par an, ce qui, grosso modo, représente 600 000 euros par année pour une organisation participante. Et donc, je vous parle aujourd'hui de Great Place to Work, et alors j'ai le grand plaisir d'avoir Sébastien Albira qui travaille chez ProTime, qui vient d'ailleurs d'être labellisé Great Place to Work en Belgique.
C'est la 10e année.
Pour la 10e année. Alors, je vous ai présenté Great Place to Work de manière très brève en introduction, mais il faut bien comprendre que dans la méthodologie, deux tiers de l'évaluation, c'est le questionnaire anonyme, c'est la moyenne des réponses anonymes à notre questionnaire qui s'appelle le Trust Index, qui est à 70% en Belgique, c'est-à-dire qu'il faut avoir 70% de réponses positives. Et ce questionnaire, il n'est pas facile parce que il adresse des questions qui sont des questions de la vie de l'entreprise, telles que vous avez une question, par exemple, il n'y a pas de décalage entre le discours et les actions du management. Vous avez des questions sur l'implication des collaborateurs, etc. Donc, ce sont des questions de l'entreprise. Et donc, l'intérêt de la présentation de ProTime, il est double. D'abord, pour vous illustrer comment ProTime, en tant qu'organisation, s'approprie du smart working. Et derrière, parce que je vous l'ai expliqué, dans le smart working, vous avez des pratiques RH, des espaces de travail et surtout des outils digitaux. ProTime est un prescripteur d'outils digitaux, donc voilà, je me suis permis de la présenter.
Oui, tout à fait. Je vais présenter rapidement qui est ProTime. ProTime est un éditeur de logiciels donc, qui appartient au groupe PlaceTheWorks. Le groupe PlaceTheWorks est le deuxième payeur en Europe, c'est-à-dire qu'on réalise des bulletins de paye. Et ProTime donc, appartient à ce qu'on appelle la workforce management, c'est-à-dire la gestion en fait des temps des collaborateurs. Sur la partie Great Place to Work, la citation qui est écrite en grand au sein de notre siège social, c'est une citation de Peter Drucker qui dit que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Donc notre fondateur et CEO, Peter Langer, ça l'a bien compris, étant en plus dans un milieu, on va dire, avec une certaine tension sur le marché, puisqu'on fait appel à beaucoup de développeurs également, et dans le milieu RH, et donc a décidé d'instaurer une vraie culture d'entreprise et également une culture du confiance. Si je fais un parallèle avec ce que disait Thibaut sur la confiance et un outil comme Wellpest Work qui est un outil de plus pour nous, hein, pour instaurer une culture d'entreprise, c'est la notion également de croissance. Nous sommes une société en croissance, on a à peu près 20% de croissance en Europe et 40% de croissance en France, et cette croissance doit se faire pour nous prioritairement sur la partie bien-être du collaborateur. On parlait également du mode de travail hybride. On a déménagé récemment en pleine crise du Covid. C'était pas hyper évident de déménager quand il y avait personne, mais surtout on a dû au dernier moment repenser en fait tout notre lieu de travail. Au départ, on l'avait pensé avec quand même quelques points un peu sympas, évidemment, des petites salles de sieste pour se reposer, parce qu'on avait compris que travailler toute la journée poser un certain repos, et on a créé une cafétéria, etc., mais aussi pas mal de places assises. Et ça, on l'a revu. On a supprimé beaucoup de places assises pour plutôt avoir un lieu de travail qui soit plutôt un lieu d'échange. Et on a commencé à créer des zones de travail un peu partout sur le territoire, l'idée étant que le salarié dispose d'une carte, un peu comme un menu, c'est-à-dire qu'il va choisir où il va aller et quand il le souhaite. C'est pour ça qu'on est passé au départ en 100% télétravail, c'est-à-dire que par défaut, nos collaborateurs sont à domicile, et ensuite, ils vont venir indiquer dans nos systèmes, ce sont des systèmes aussi qu'on commercialise, ils vont venir indiquer où ils souhaitent aller travailler en fonction des différentes réunions. Ils peuvent aller travailler dans tous les pays d'Europe, hein, ils peuvent se déplacer. En France, ils vont avoir une agence proche de chez eux. On va avoir évidemment nos sièges. On a deux sites, un site sur Paris et un site à Villars. Alors Villars, on y va plutôt l'été, parce que c'est sympa. Ouais. Mais globalement, on va pouvoir comme ça choisir les différents endroits et on donne aussi la possibilité d'aller sur des coworking. Ce qui fait que nos salariés deviennent un peu acteurs de leur temps de travail, qui vont venir finalement décider où ils vont aller travailler pour créer telle ou telle réunion. Voilà qui est ProTime. On met à disposition, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on met à disposition des outils de gestion des temps. Et si moi je reviens sur la genèse un peu du DRH, on parlait à l'époque du bureau du personnel, qui s'est transformé en service du personnel, qui s'est transformé en ressources humaines. Donc le métier s'est transformé. Et ProTime, historiquement, était un vendeur de pointeuses, c'est-à-dire que plutôt dans du contrôle du collaborateur. Et aujourd'hui, on se transforme parce que le contrôle change un peu de côté, c'est-à-dire que nous, on sort plutôt des indicateurs pour s'alerter sur un travail trop important. Pour le coup, on a vraiment un effet inverse, c'est que nos collaborateurs aiment ce qu'ils font, ils vont travailler énormément, et tous les indicateurs vont sortir quand surtout il y a trop de travail. On commençait déjà à prévenir, par exemple, les cas de burn-out, on va avoir des personnes qui vont s'impliquer énormément et on va devoir capter comme ça ces masses de temps qui sont enregistrées. Donc, nous, quand on parle d'outils de gestion de temps, à l'époque on parlait d'une bageuse, aujourd'hui on est plutôt sur un outil qui permet de gérer la partie flex-office, que l'on appelle, c'est-à-dire cette notion de travail hybride et de pouvoir se travailler n'importe où et depuis n'importe où. Donc, voilà ce qu'on fait, et la partie web-based work qui est encore une fois quel outil. Pendant le Covid, on a dû être assez inventif. On a créé une radio où les salariés peuvent choisir leur musique et les émissions. On a mis à disposition une ligne téléphonique pour l'ensemble de nos salariés avec des psychologues, parce que certains n'ont pas comme tout le monde. On est présent sur Paris et pas en province, ce qui fait qu'on a des salariés qui n'ont pas 70-90 mètres carrés. Donc, qui ont vraiment souhaité revenir au travail, on se dit ben non, on pouvait pas le voir en fait, mais ils voulaient vraiment revenir dans les bureaux, parce que les bureaux pour le coup sont censés être sympas. Donc on a dû mettre une ligne téléphonique par rapport à ça, et on a créé beaucoup d'événements. Et alors le concept d'apéro box chez nous marche très bien aussi, c'est à dire que on a l'habitude de recevoir une petite apéro box et de se réunir autour de sa thématique. Et enfin, on a créé aussi des outils qui vont venir questionner les collaborateurs, pas tout le temps parce que ça peut être pénible. Mais des outils qui vont vous poser 3 questions par jour sur avez-vous confiance dans votre manager, dans la stratégie de l'entreprise, et le management va analyser ces données-là qui sont anonymisées et qui vont permettre d'ajuster un peu les éléments de communication. Et pour revenir sur le thème principal qui est la confiance, on est une vraie transparence dans l'entreprise. Ça va de notre direction administrative et financière qui va communiquer jusqu'au chiffre de marge à l'ensemble des collaborateurs. Et ça passe aussi par des outils. On parlait de LinkedIn. On a des réseaux sociaux internes également. On a tous des WhatsApp. On a une vraie communication qui se fait vraiment jour le jour, qui devient quotidienne. Et c'est souvent ce que je dis quand on onboarde quelqu'un chez nous. Dans le recruter, c'est une période d'intégration qui est assez forte. C'est qu'on passe quasiment autant de temps avec les collègues qu'avec sa famille. Donc il faut qu'il y ait un vrai match. Donc il faut que la personne se sente à l'aise. Et c'est pour ça qu'on entend lui sur la partie confiance.
Merci Sébastien. Donc Cyril, c'est à vous de nouveau. Bien, bravo.
La caméra, il est micro.
On vous voit, Cyril, c'est parfait. Tout le monde vous voit.
Je vous parle
dès que vous parlez.
Je gouverne le numérique. ok. Ça. Bon, d'abord, je suis très heureux d'être là en tant que juriste spécialiste de droit du travail. Je suis très heureux parce que, en effet, tous ces discours, toutes ces innovations questionnent. Le droit, et puis questionne le juriste que je suis et que nous sommes, puisqu'on est un certain nombre dans cette salle. Au fond, j'ai envie de prendre, c'est peut-être le côté universitaire là aussi, j'ai envie de prendre un peu de hauteur et essayer d'embrasser large pour soulever les questions que... pour susciter les interventions de ce matin, enfin de la première partie et de la seconde partie, et ne pas simplement réagir sur l'importance, en effet, de peut-être de labels d'entreprise qui permettent aux salariés d'avoir un peu d'empowerment, comme on dit, dans leur choix, ou même autour de la question de la confiance. Je voudrais peut-être mettre ça en perspective avec le droit du travail en tant que tel. Et donc, je voudrais peut-être poser deux questions, finalement. La première est assez simple, assez convenue, mais peut-être la rappeler. La seconde, elle est peut-être plus complexe sur la gouvernance numérique. Donc, deux questions. Première question, est-ce qu'il y a une nouvelle subordination, en fait, avec les outils numériques? Est-ce que la subordination change de visage? Et jusqu'à quel point le droit... peut s'adapter ou au contraire accompagner ou au contraire freiner s'il y a une vraie nouvelle subordination? Première question. Et deuxième question, gouverner juridiquement la gouvernance numérique, quoi. Gouverner la gouvernance, c'est un peu la position du juriste qui cherche toujours à gouverner les autres normes, hein, les autres formes de normalisation. Donc première question, nouvelle subordination. Bien sûr, on le lit partout depuis 40 ans maintenant, hein, donc l'usage des outils numériques casse les unités de temps et de lieu du travail et pose des problèmes particuliers liés à la surveillance. Et on pourrait rappeler que le droit du travail, celui qu'on a aujourd'hui dans le code, c'est largement construit sur des collectifs unis dans le temps et l'espace autour d'un projet économique décidé par un entrepreneur, et non pas un financier, et mis en œuvre par des subordonnés. C'est le modèle en arrière-plan qu'on dit parfois taylorien, mais c'est un peu facile, et là, je préfère pas dire, sur des vrais gestionnaires. C'est le modèle, en fait, quand même, en arrière-plan des règles de droit du travail. Ce modèle, il est bien sûr mis à mal par le numérique, à la fois sur le temps, sur l'espace, sur la surveillance, ok. Mais, peut-être, me semble-t-il, pour comprendre, mieux comprendre encore les transformations issues du numérique dans tous ces outils divers, il faut retourner à la source du modèle. Et la source du modèle, c'est quand même l'organisation, une certaine forme d'organisation du travail autour de ce qu'on a pu appeler l'usine, la fabrique, etc. Et cette organisation traditionnelle du travail, elle avait deux fonctions. Rappeler rapidement ces deux fonctions sous ton contrôle, et puis ensuite je vais voir comment les outils numériques ont un rapport en fait ambivalent à cette fonction. Et ce terme d'ambivalence, on l'a trouvé durant toute cette matinée. Donc deux fonctions de l'organisation traditionnelle. Je me suis permis un petit clin d'œil, moi aussi, comme M. Bachimon, c'est surveiller et produire. Deux fonctions de l'organisation traditionnelle. Surveiller d'abord l'usine, apparaît à la fin du 19e siècle, de manière un peu plus massive, en tout cas en France, plutôt en Grande-Bretagne, je ne rentre pas dans les détails. Et elle a deux objectifs. Discipliner les travailleurs en les fixant pour pouvoir les surveiller. Hein, durant tout le 19e siècle, une des grandes difficultés des patrons, c'était d'avoir de la main-d'œuvre qui ne s'échappait pas, qui n'allait pas au champ pour travailler, faire des travaux agricoles, qui respectait les horaires. Donc il y a un gros problème de discipline. Et l'usine, permet d'améliorer la discipline des travailleurs. Deuxième fonction, produire. C'est-à-dire que l'usine, c'est les travaux d'Atuel et de Lefebvre sur l'invention de l'entreprise, qui pour moi est l'une des très très grandes thèses de l'expérience de gestion, mais une très grande thèse même pour la compréhension des organisations en général. L'usine de la fabrique de la fin du 19e siècle va permettre d'absorber, d'intégrer les innovations technologiques de l'époque. Et ces innovations technologiques exigent une coopération plus poussée et plus de proximité entre les travailleurs et la maîtrise de la production par un entrepreneur. Alors qu'avant, l'usine, la fabrique, était plutôt une collection, on va dire, d'artisans, de petits ouvriers, de patrons qui pouvaient échanger des produits, en tout cas pour lesquels la coordination n'était pas centrale. Là, la coordination devient centrale et c'est une coordination de type hiérarchique. Et Lefebvre le montre très bien dans ses travaux et d'autres gestionnaires aussi le font. On voit apparaître dans les organisations des contre-maîtres, c'est-à-dire des relais du maître, des relais et de la hiérarchie. Donc la technique, là aussi déjà, la technique exige l'unité de lieu, l'unité de temps, parce que pour produire avec les nouvelles machines, les nouvelles l'utilisation massive de la vapeur, etc., pour produire, il faut un seul lieu. C'est l'innovation technologique impose une forme à l'organisation. Et alors, le droit répond. Je ne veux pas dire qu'il suit, parce que c'est pas vrai. Le droit a toujours un rapport ambivalent. Il suit l'adaptation technique tout en la favorisant. Donc, tout le terme répond. Le droit répond à cette nouvelle organisation. Et la subordination constitue la réponse juridique à ce double objectif, surveiller, parce qu'il y a une obligation d'obéissance qui est consubstantielle à la subordination, mais aussi produire, puisque la subordination traduit le commandement de la ligne hiérarchique. C'est-à-dire, c'est pas simplement un système de surveillance, la subordination, c'est aussi la traduction de la nouvelle forme de production, qui est une production qui exige de suivre des ordres hiérarchiques. Donc surveiller et produire avec une subordination qui en constitue d'une certaine manière la traduction juridique. Alors, les outils numériques ont un rapport ambivalent à ces deux fonctions, surveiller et produire. Et c'est un peu ce que disait M. Molin sur le pharmacone. Exactement entre les deux. Alors, sur la surveillance, à la fois les outils, on le sait, permettent une surveillance, les outils numériques permettent une surveillance qu'on dit souvent accrue. Je suis pas sûr qu'elle soit accrue pour tout le monde, hein. Je pense que pour des ouvriers à la chaîne, numérique ou pas numérique, la surveillance a toujours été là. Bon, mais en tout cas, c'est une surveillance différente et qui sûrement touche davantage certaines catégories de salariés qui étaient un peu... Je pense au cadre, à l'encadrement, etc., certaines catégories de salariés qui étaient, on va dire, un peu à l'écart de cette surveillance. La surveillance numérique s'étend puisqu'elle ne s'intensifie. C'est-à-dire, il y a ce double mouvement dans le salariat. Surveillance numérique, ça intensifie la surveillance, mais ça étend la surveillance à des catégories de salariés qui étaient quand même beaucoup moins surveillées, qui étaient quand même beaucoup, beaucoup plus libres. Mais en même temps, ces mêmes outils, on le voit très bien avec ProTime, ces mêmes outils permettent une plus grande liberté, du travail à distance, une plus grande flexibilité, une plus grande liberté dans l'organisation de son propre travail. Donc, ambivalence fort. Pour la production, là aussi, les outils numériques engagent cette transformation importante. La coprésence n'est plus nécessaire, d'où le, bien sûr, le développement du télétravail, et les ordres, les directives, la surveillance vont prendre le schéma, enfin vont prendre la forme du schéma, de la procédure, du tableau, du cloud, et toutes ces formes de commandement, finalement, elles peuvent être exercées à distance. Reste que la question de la productivité à travers ces outils numériques, c'est-à-dire avec des algorithmes intégrés, c'est-à-dire une manière de travailler intégrée, ces outils quand même posent toujours la question de leur productivité. Là, je renvoie vers des travaux peut-être plus de gestionnaires d'économistes, mais dans quelle mesure ces travaux, enfin les outils numériques, produisent-ils réellement une amélioration de la productivité? Est-ce que leur rapport bénéfice-coût est vraiment positif? Mais du côté des salariés, ces outils numériques posent un problème qui a été très bien posé ce matin par M. Bachimon, c'est finalement quelle maîtrise de l'outil de travail. Excel, pour les salariés du chiffre, les experts comptables, pas de problème. C'est-à-dire que on peut détourner cet outil, on peut l'utiliser, on peut le manier, on peut le transformer, etc. Mais pour le juriste que je suis, juriste universitaire que je suis, à qui on demande de temps en temps de remplir un tableau Excel, pour moi c'est un carcan, c'est une cage. Je sais pas l'utiliser, les codes couleurs j'y arrive jamais, je sais pas. Voilà, et pourtant je vois bien que certains en font quelque chose. Et donc finalement, la question, c'est celle de la maîtrise de l'outil de travail, et donc de l'imposition par la DSI, et c'est là où je fais le lien avec ce qui a été dit ce matin, l'imposition par la DSI de schémas de travail qui ne sont pas ceux du métier. Et en fait, cette question des outils numériques et de la place prise par les DSI renvoie à la question de la perte de la force du métier dans notre travail. Et en même temps, on voit bien, par exemple, chez ProTime, que tous les prestataires d'outils numériques cherchent toujours à adapter à chaque entreprise l'outil. Néanmoins, la question du métier et donc de l'identité professionnelle et de la capacité de chacun des salariés à fabriquer son outil de travail, cette question, elle est posée avec beaucoup d'acuité avec les outils. Parce que, précisément, ces outils, ce ne sont pas les outils du métier. C'est ce que je crois, est en filigrane de ce qu'a dit ce matin M. Bachimon. Finalement, il faut assurer la liberté du salarié. Ça, c'est évident. Mais je crois que on peut même prolonger encore, en tout cas ça a suscité cette réflexion chez moi, il faut assurer la liberté du salarié sur son outil de travail, parce que c'est ça qui sûrement est très pathogène, c'est ça qui l'enferme, et pas sûr que ce soit productif, comme le montrent les chiffres de Glassdoor. Mais au-delà d'assurer la liberté, il faut accepter l'erreur. C'est accepter l'erreur, l'imperfection et la désobéissance. Et en fait, c'est très compliqué, puisque ça veut dire finalement qu'il faut accepter la liberté contre l'efficacité. C'est-à-dire que la question n'est pas celle de l'efficacité, si on veut un peu se débarrasser des outils numériques, mais la question de la liberté. Or, les outils numériques, d'après moi, sont globalement plus efficaces. Là, bien sûr, quand on analyse 1 million de radios pour détecter une microfracture, c'est plus efficace qu'à... Bien sûr, déjà. Mais qu'est-ce que on doit mettre en avant dans une organisation? La liberté ou l'efficacité? Après, si être plus libre, c'est plus efficace, tant mieux. Mais je crois que la question un peu émancipatrice, si on veut, c'est de dire non à l'efficacité. Bien sûr, on voit bien ce que ça signifie aujourd'hui, non à l'efficacité, dans un système où le profit est important, où certaines décisions ne sont dictées que par le profit. Et je trouve que Greg Pace, peut-être que je suis un peu peu souvent, mais je trouve que GraphQL Framework a quelque chose de radicalement nouveau. En fait. Parce que la question de GraphQL Framework, c'est pas l'efficacité, c'est l'hyperconnaissance. Le smart working, moi, je trouve que dans le terme smart, il y a tellement de choses que peut-être on perd un peu de précision, mais au fond, c'est dire dans quelles organisations on est assez libre. Et en fait, je trouve qu'il y a une démarche, je dirais pas révolutionnaire, mais radicalement critique de GraphQL Framework. Et qui est peut-être le signe d'un petit changement de paradigme sur les règles dans l'organisation, sur efficacité et liberté de salaire. Je vais aller rapidement. Il me reste combien de temps à peu près ?
5 minutes.
Sur la gouvernance de la gouvernance numérique, juste pour montrer qu'il y a 4 options possibles pour le droit de gouverner les outils numériques. La première, il y a 4 modèles et, qui sont, on va dire, mélangés, bien sûr. Premier modèle, la gouvernance juridique sous la forme de ce qu'on appelle réglementation. C'est une réglementation, c'est-à-dire c'est une réglementation de type substantiel, très détaillée, avec un détail en fonction des outils eux-mêmes. Le modèle type de cette réglementation, c'est le droit de la santé et de la sécurité. On a des règles dans le code du travail sur les équipements, les machines, le travail en hauteur, les locaux, le vestiaire. Il y a même une section du code du travail, je vous rappelle, qui s'appelle échelle, escabeau, marche-pied. Ça, c'est de la réglementation, c'est-à-dire que on va précisément pour chaque objet prévoir des règles. Il y a un contrôle a posteriori par l'inspection du travail et avec une logique de sanction et en cas de dommage, une logique de compensation. Ça, c'est une possibilité du droit qui n'est pas très utilisée en matière de numérique, sauf peut-être sur écran. Okay, on a ce type de réglementation. L'intérêt de ce type de réglementation, c'est que c'est hyper sécure. Pour les RH, c'est très précis. C'est pas très simple, c'est sûr, mais au moins on sait où on va. Hein, je veux dire, la règle est assez évidente. Deuxième type de gouvernance, à l'opposé, la gouvernance par délégation au secteur privé. C'est-à-dire que finalement, le droit renvoie aux acteurs privés pour qu'ils se mettent d'accord sur les règles. Le type même de gouvernance de ce type-là, c'est le droit à la déconnexion qui n'a de droit que le nom, puisque le droit à la déconnexion, il n'y a aucun droit des salariés, c'est juste une incitation à négocier, prévue dans le Code du travail, sur la déconnexion. L'intérêt, bien sûr, de ce type de droit, c'est sa souplesse, son adaptabilité. Après, pour les RH, c'est toujours très compliqué de travailler sans avoir au moins un modèle de référence. Hein, la règle, c'est aussi un modèle pour l'action, ça n'est pas que une contrainte. Troisième type de réglementation, une régulation publique de type procédural. C'est-à-dire que là, le droit n'est pas en abstention totale, il renvoie pas la réglementation privée, il va organiser des procédures et des enceintes pour qu'on discute de la règle juste, pour que les décisions de l'employeur puissent être discutées. L'exemple typique, c'est la consultation du comité social et économique, en matière, par exemple, d'introduction de nouvelles technologies. C'est-à-dire que le droit ne nous dit rien des finalités. Il dit juste, lors de l'introduction de nouvelles technologies, le CSE, il faudra en discuter avec le CSE, qui aura le droit à un expert, vous voyez, donc il y a une réglementation uniquement de type procédural. Après, on peut un peu améliorer cette régulation publique de type procédural en y ajoutant on va dire des principes. C'est une réglementation procédurale sur fondement substantiel. J'appelle ça de manière un peu compliquée comme ça. Mais en fait, le type même, là, c'est le RGPD. Le RGPD pose des principes. Transparence, finalité, intérêt légitime, etc. Okay. Les principes sont très clairs dans la loi et dans le RGPD. Et après, leur mise en œuvre se fait de manière plus procédurale avec des différents systèmes et un contrôle a posteriori par une autorité administrative indépendante qui est elle-même productrice de sous-normes, etc. Donc là, on a des principes et puis ensuite tout un ensemble procédural qui permet de faire vivre les principes. Quatrième et dernier, j'en ai terminé, quatrième et dernière possibilité, une réglementation substantielle à implémentation procédurale. Ça sera, plus ça avance, plus ça sera fine, bien sûr. Là, en fait, les normes sont détaillées, les normes sont techniques, on pourra trouver des normes sur les escabeaux, les échelles, etc. Mais leur implémentation, leur mise en œuvre ne se satisfait plus de la simple énonciation de l'obligation. Il ne suffit pas de dire « les escabeaux devront être solides ». C'est-à-dire, ça ne suffit pas, cette simple énonciation, à faire advenir la norme à son effectivité. Et donc, on va trouver, pour mettre en œuvre cette réglementation substantielle, des systèmes procéduraux non publics, de type certification, agrément, certification, etc., et labellisation. On trouve ça aussi dans le RGPD, aux articles 42 et suivants, qui permettent une certification de certains outils, de certains outils. Je suis allé regarder un petit peu du côté de la CNIL, j'ai pas vu que cette certification soit encore très très développée, mais on pourrait très bien imaginer un certain nombre d'outils numériques de management qui auraient une certification RGPD. Il y en a, je suis sûr qu'il y en a, comme il y a une certification ISO, une certification IGPD en disant oui, on a tout fait pour mettre en œuvre les principes de minimisation, les principes de finalité, etc., la pseudonymisation au maximum, etc., etc. Donc, bon, cette réglementation substantielle à implémentation procédurale, qui est en termes de qui prend souvent la forme de la normalisation technique, elle me semble aussi pouvoir être développée pour assurer précisément la sécurité des salariés, mais aussi des données vis-à-vis de l'extérieur, etc., tout en donnant un espace pour les acteurs pour mettre en œuvre au niveau local ces énonciations juridiques générales. Voilà, donc, vous voyez à quel point, et j'en ai terminé, vous voyez à quel point le numérique crée des tensions dans le droit du travail, d'une part du côté de ses fondements même, mais aussi du côté du type de réglementation à mettre en œuvre. Merci beaucoup.
Je veux bien, Eric et Catherine, si vous voulez venir aux questions, avant de passer sur la conclusion. Moi, il m'en vient, tu me permets, Eric, d'en poser une en tant qu'ancien dirigeant d'une société, j'ai beaucoup d'air, qui va s'adresser bien sûr aux entreprises ici présentes, au tarif, mais Good Place to Work. Je pense que le télétravail a été une véritable opportunité à deux titres. D'abord, une accélération du numérique, c'est évident, incontestable. Une recherche de performance économique pour les entreprises, parce que derrière, production des surfaces, optimisation de la performance du travail également, quand même. Moi, il me vient une question quand même, c'est aussi l'opportunité dans la relation entre le management et les salariés. Pourquoi je dis ça, et je voudrais que vous challengez sur ce sujet, ça va obliger les managers à être plus clairs aussi ce qu'ils attendent de leurs salariés, ce qu'ils attendent de leurs employés. Et ça va rentrer dans une relation de confiance où j'aime bien la notion de livrable. Eric connaît bien cette notion qui m'est très chère, c'est-à-dire une obligation livrable. J'attends de vous un livrable. Quand? Et à quelles conditions? Et je pense que ça va aussi contourner tous les problèmes syndicaux, c'est dommage, là, si vous êtes là, tous les problèmes que l'on a avec la relation syndicale entre les dirigeants et les syndicats, où ça va forcer, sans aller dans les normes, hein, vous l'avez cité, évidemment les normes il en faut, sans aller dans les normes, mais dans un contrat, très clairement, maintenant définir quels sont les livrables, dans les contrats d'objectifs, on peut très clairement l'énoncer, c'est pas des romans à faire, hein, c'est plutôt 3 lignes, je pense que ça va apaiser aussi les relations sociales. Je le dis de façon très positive, alors j'aimerais avoir votre avis des deux entreprises, Rotheim et pardon, vous avez un micro.
Merci. Alors, merci pour cette question. Alors, il faut savoir que la confiance, il y a différentes définitions, mais en tout cas, il y en a une que j'ai retenue moi dans mes travaux, c'est celle de Henderson et Gibbons qui disent que, en gros, la confiance se construit à partir de la crédibilité et de la clarté. Mais moi, j'ai une adoption qui est un petit peu différente, c'est-à-dire que je veux Donc ça, c'est la notion, plutôt, la définition plutôt économiste. Et moi, je m'intéresse plutôt à la sociologie, qui rajoute la dimension bienveillance qui se construit dans la relation humaine. Et surtout, qui se construit lorsque un collaborateur fait un don pour le groupe, le don étant le travail ou la contribution du travail pour le groupe. Dans le modèle de Place to Work, une dimension qui est centrale, c'est la dimension collective, c'est-à-dire le fait que le collaborateur contribue pour le groupe. Un don dans le but de créer du lien social, qui est d'ailleurs qui est abordée par Godbout, qui est un grand chercheur dédié au don, donc en sociologie. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec tout ce qui s'est passé, on pourrait se demander, avec les confinements, avec le télétravail généralisé, comment un manager va-t-il arriver à créer une relation de confiance s'il est à distance de son collaborateur? Puisque, comme je viens de l'expliquer, il y a trois dimensions, crédibilité, clarté, bienveillance. Crédibilité, ok, on va pouvoir le construire avec finalement des objectifs. C'est vrai, si les objectifs sont à part, alors c'est crédible. S'ils sont clairs, alors on construit. Alors, c'est là où ça m'intéresse, non pas de la confiance, mais de l'assurance. Et donc, pour moi, je pense que, à travers le modèle de Place to Work qui évalue principalement la confiance envers le management, envers les collègues et envers même son propre travail, toutes ces dimensions de fierté, eh bien, ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce modèle-là, et moi, dans mes, alors j'ai effectué une étude sur 400 000 répondants à l'enquête de Place to Work dans 344 entreprises différentes, labellisées et non labellisées. Parce que là, je vous ai parlé de Place to Work, des entreprises labellisées, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2/3 d'entreprises qui participent uniquement dans le but d'améliorer leur qualité de vie au travail année après année. Au time, ça fait 10 ans qu'ils sont labellisés avec Place to Work, et je peux vous dire que c'est très difficile. Et donc, ce que j'essaye de dire à travers ça, à travers votre remarque que je trouve extrêmement pertinente, c'est que les objectifs, ils individualisent le travail. Et nous, chez Place to Work, le modèle, la façon dont il a été créé par un journaliste d'investigation qui adore les conflits syndicaux et qui adore la dimension collective du travail. C'est assez fou quand même quand on y pense. Et donc aujourd'hui, pourquoi ce modèle prend de l'essor? Eh bien parce que la dimension collective, elle a son importance lorsqu'on individualise le travail. Elle est d'autant plus qu'aujourd'hui, si vous êtes en télétravail généralisé, beaucoup de collaborateurs se retrouvent face à leur PC, comment créer du lien social? Donc, voilà. Donc, je pense que ce qui serait intéressant à travers ce modèle, c'est effectivement de réfléchir à la création de la relation humaine. Et c'est d'ailleurs, je veux juste rebondir aussi sur un autre élément que je pense qui est assez important. On demande souvent, on parle de Place to Work avec le côté un petit peu baby-foot, le côté on a des activités sociales. Ce que je trouve assez intéressant, c'est que j'avais été contacté par une chercheuse en sociologie sur le convivialisme. Et finalement, l'approche étant, c'est des entreprises où il y a beaucoup d'événements de convivialité, et donc on a l'impression que c'est une manipulation managériale. Mais finalement, moi, ce qui m'a intéressé, c'est que dans les données que j'ai retrouvé cette dimension qui était particulièrement importante, parce que en revenant en fait sur la littérature, je me suis rendu compte que la convivialité elle était finalement la finalité d'un échange de dons au sein d'un groupe, c'est-à-dire la dimension collective. Donc c'est ce qui est vraiment important, je pense, aujourd'hui avec ces problématiques. Que justement l'instauration du télétravail, c'est la notion de performance, c'est de trouver le juste milieu entre collectif, individuel, et surtout lorsque un manager qui représente la principale problématique de l'organisation contemporaine, c'est la responsabilité fiduciaire du manager. Le manager est embauché par les actionnaires dans le but de maximiser le profit de l'organisation. Et donc, comment le manager qui se retrouve pivot au sein de l'organisation fait-il pour, avec des collaborateurs qui ont une attente de bienveillance à leur égard, et de l'autre côté, les actionnaires qui ont une attente de performance économique. Et donc, c'est vraiment ça qui est en jeu, ce rôle pivot du manager dans, dans la création du collectif.
Merci. Sébastien, peut-être souhaitez-vous rajouter quelque chose?
Oui, alors je rejoins Thibault. Alors déjà, quand on parle de livrable, c'est vrai qu'on parle aussi d'objectifs qu'on livre. On a plutôt des objectifs qui sont à 70-30, 70 individuels et 30% collectifs, justement qu'on garde une certaine harmonie. Ensuite, je précise aussi que lorsqu'on recrute nos collaborateurs, on le recrute parce qu'on veut qu'ils nous apportent quelque chose et qu'ils soient acteurs. Donc, quand ils viennent chez nous, ils ne sont pas, et ça je le passe souvent, prisonniers. Parce que quand on pense Golpes Work, on peut penser aussi qu'il y a une vraie culture, et si on n'est pas dans la culture, on ne rentre pas dans le rôle. Sont pas prisonniers, évidemment, ils sont acteurs de leur métier, c'est pour ça qu'on leur fait confiance, c'est-à-dire que, on part du principe pour les experts, c'est eux. C'est pas le management, justement. C'est toujours de recruter des personnes qui nous apportent des choses, sinon, on n'a plus de... Donc c'est ça que je voulais préciser. Après, sur la visibilité, sur le livrable, je reviens toujours aux outils, qui sont des moyens, hein, mais on a des outils très clairs qui permettent de voir justement, les objectifs de chacun. S'il y a des retards, on crée du soutien. Et on crée du coup aussi une forme de cohésion. Parce que c'est ce qu'on veut développer, c'est-à-dire que les objectifs individuels, mais si on a un collaborateur qui n'arrive pas à atteindre ses objectifs, on va voir que spontanément, dans le groupe, des personnes vont venir l'aider. Et ça, pour moi, c'est un vrai élément de culture qui est assez fort. Ensuite, je vais juste faire un parallèle sur le propos du droit à la déconnexion, que je trouve assez intéressant, parce que le droit à la déconnexion, aujourd'hui, il est à la fois intéressant, à la fois, il est un peu étonnant, dans le sens où, je vais prendre juste mon exemple, ou même l'exemple de ma femme, le télétravail, c'est chouette, ça permet de chercher les enfants à l'école plus tôt. Mais pendant qu'elle va chercher les enfants plus tôt, elle ne peut pas aller travailler. Lorsqu'elle va se connecter sur son PC le soir à 21h, elle ne peut plus, puisqu'elle a le droit à la déconnexion. Et donc, du coup, elle va se retrouver à devoir travailler en même temps qu'elle a les enfants à côté, plutôt que de reporter son travail un peu plus tard dans sa journée. Donc, elle devient un peu moins actrice de son temps de travail, et plutôt, voilà... Elle n'a pas le choix, elle veut se conformer à ce droit qui, en fait, la rend un peu moins libre dans son organisation personnelle.
Merci beaucoup. Je vous donne le micro, oui. Je vais passer le... Oh, madame.
Bonjour. Vous m'entendez ?
Oui. Oui, on vous entend, hein, vous inquiétez pas. Il y a la
bonne. Bonjour à tout le monde. Alors j'ai l'honneur, je m'appelle Laurence Matisse et j'ai l'honneur de représenter ici la CFE-CGC, donc l'autre organisation syndicale partenaire de cette chaire. Et merci pour voilà tous ces événements extrêmement enrichissants. J'aimerais faire plusieurs réflexions et puis un questionnement. Je vais commencer par le questionnement. Vous l'avez la discussion qui a eu juste avant l'a évoqué. Mais concernant les questionnaires que vous voulez mener, chez Workplace to Work, c'est ça, pardon, c'était la place justement du collectif. Est-ce que dans le questionnaire, vous avez présenté un public qui était plutôt les salariés, qui était plutôt également le côté des directions. Est-ce que, voilà, quelle est la place, est-ce que vous avez des indicateurs sur l'implantation d'un représentant du personnel dans ces entreprises-là et comment c'est intégré dans votre évaluation de la confiance et des autres critères de positionnement du collaborateur par l'organisation. Et sinon, la réflexion, alors décidément, le mot smart est très. C'est bon parce que les objectifs, c'est aussi smart. Hein, vous savez, il y a aussi une méthodologie de fixation des objectifs qui sont smart. Donc, je vois que le mot smart avec positive antique, hein, on est bien d'accord. Mais du coup, ce que j'ai constaté ce matin, c'est qu'effectivement, juste à l'occasion des questions, mais dans les présentations, à aucun moment on n'a parlé de la dimension collective du smart, du smart working. On a eu des présentations mais dans une relation très individualisée. Le collaborateur qui est au cœur, qui est acteur de sa relation de travail, qui reste quand même subordonné, mais à aucun moment il y avait un intermédiaire qui pouvait être le collectif incarné par des représentants. Et donc, du coup, moi, je représente une organisation qui souhaite que le numérique devienne un sujet collectif. Et justement, ce qu'on constate, c'est que ça reste un sujet interpersonnel, parce que les process sont interpersonnels. J'ai mon outil, j'ai mon télétravail, j'ai mon organisation. Et pourtant, ça devrait être un sujet collectif. Et à la réflexion de gouverner une organisation par le numérisé, ça devrait aussi commencer par une gouvernance collective dans l'entreprise. Et là, la réflexion que nous, on a, c'est qu'on s'aperçoit que l'outil à disposition d'une gouvernance qui est juste l'information-consultation des représentants du personnel sur l'introduction d'outils numériques, d'ailleurs, c'est outils technologiques, c'est même pas outils numériques, et bien, en fait, il date et il nous semble vraiment désuet parce qu'il ne permet pas de s'approprier cette discussion collective sur tous les effets positifs et négatifs qui ont été présentés ce matin. Et nous, on milite, et on militerait pour que ça évolue, parce que pour le coup, le droit, nous, on estime que de ce point de vue-là, le droit à la représentation collective, et donc à la gouvernance collective de ce sujet-là, n'est pas à la hauteur des enjeux. Donc, je voulais témoigner de ça, et le mettre en débat.
Peut-être que Cyril peut rebondir parce que vous avez abordé le sujet.
Je reviendrai après, je laisse répondre sur le management.
Oui,
juste dernier point comme réflexion, le télétravail et le Covid a montré à quel point le manager de proximité, parce que je pensais être le CGT, se veut aussi la voix de ces managers-là, les managers de proximité, d'un seul coup, il y a eu une révélation dans les directions, comme quoi le manager de proximité, c'est celui qui faisait le discernement, l'ajustement, et la gestion de toutes les contradictions. Et on aimerait qu'à l'issue de cette crise, ça se soit pris en compte, se soit reconnu, valorisé, et aussi collectivement débattu, et pas uniquement dans les objectifs.
Bon, deuxième question est difficile là, pour des experts comme on en a autour de la table. C'est, et plus, on va dire, c'est votre ambition, et je la comprends. Par contre, j'aimerais bien avoir l'avis d'un juriste, Cyril, et Catherine, hein, bien sûr, sur le sujet... que vous avez abordé en matière de droit.
Enfin, Laurent, c'est très, très juriste, donc... je suis complètement d'accord avec toi. L'introduction de nouvelles technologies, qui est un des motifs de consultation du CSE, est une petite porte d'entrée sur le contrôle du numérique. Je crois que ça renvoie à une question plus profonde et qui, là, interroge les organisations syndicales, c'est qui maîtrise le travail dans l'organisation. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas temps que les organisations syndicales s'impliquent, non pas simplement des conditions d'emploi et de rémunération, mais dans la manière dont on travaille. C'est-à-dire, contrôle de manière plus précise, par exemple, les outils DSI, les outils, etc. Et le problème, alors ça c'est sur le côté action syndicale, sur le terrain juridique, on est plusieurs à l'avoir démontré, en fait, le droit du travail s'intéresse assez peu à la manière dont les salariés travaillent. On s'intéresse aux conditions d'emploi, aux conditions de rémunération, aux environnements, mais au processus, à l'activité réelle de travail, là, le droit du travail est très muet sur cette question. Et sûrement, il y a quelque chose à creuser de ce côté-là sur, comment on réinvestit des débats collectifs sur le travail et on n'abandonne pas ça à l'employeur et à une décision patronale liée à un pouvoir de gestion auquel on ne touchera pas. Voilà. Et là, le droit du travail est malheureusement un peu démuni.
Oui, Eric, oui, tu voulais intervenir aussi.
Juste dire un mot. Moi, par rapport aux juristes, je crois que la numérisation, c'est la rencontre d'une technologie et d'une évolution des mentalités. Essayer de ramener ce qu'on a pu connaître avant, c'est difficile. Et particulièrement sur la question du collectif, c'est pour ça qu'elle vient difficilement, c'est que c'est pas le numérique qui a cassé le collectif, c'est autre chose. Et donc, évidemment, ça se retrouve dans le numérique, amplifié, voilà. Et on voit, il y a cette ambivalence, on a utilisé le mot plusieurs fois, dans le numérique, vous avez à la fois les ingénieurs dont parlait Yves tout à l'heure, qui veulent travailler de chez eux, et puis vous avez à la fois les salariés de Deliveroo, qui ont été rattrapés par le juge, enfin pas les salariés, l'entreprise a été rattrapée par le juge très récemment. Donc vous avez cette ambiguïté. Donc à mon avis, c'est dans ce sens-là quand nous on essaie de travailler, c'est qu'il faut commencer par essayer, enfin c'est intéressant d'essayer de voir ce qui se pratique pour ensuite essayer de voir en quoi on peut contribuer à renforcer des libertés, des droits. En gros, est-ce qu'il existe des communautés numériques? Est-ce que ces communautés numériques sont intéressées par des questions que les syndicats peuvent traiter? Et je prendrais plutôt par ce bout-là plutôt que de me demander est-ce qu'on va mettre du collectif, je me demandais ce qu'il y en a. Et il y en a forcément, parce qu'il y en a. Mais du coup, comment est-ce que, ben voilà, on l'aide, on soutient, enfin. Est-ce que je peux poser une question à Sébastien?
Non, Eric, c'est toi qui es directeur de cette chaire.
On a fait une enquête, alors tu es intéressé par ce que vous avez dit, on a fait une enquête qui vient de se terminer pour Planon, qui est une des entreprises qui soutient la chaire, sur le rapport des étudiants à l'environnement numérique. Donc on fera une diffusion des résultats, on vient juste de la terminer, mais il y a certaines choses qui sont sorties et je voulais savoir comment vous, parce que vous avez pu voir de votre côté. Alors j'en ai pris trois en vous écoutant. Ce qui est ressorti de cette enquête qualitative, c'est que la maîtrise de l'outil en elle-même pouvait devenir un objet de stress. C'est-à-dire, voilà, c'est pénible d'utiliser l'outil numérique, alors voilà, parce que ça change, parce que ça marche pas. Ensuite, il y a autre chose, une autre chose qui m'a paru aussi intéressante, c'est que le numérique était vu par les étudiants avec qui on a parlé, par certains comme un outil de socialisation. Ça leur permettait de créer une sociabilité. Donc du coup, on a le collectif. En tout cas, il est présent à Nanterre. Et pour d'autres, qui sont des fois aussi les mêmes, ça leur a fait découvrir la solitude. C'est-à-dire le fait d'être à distance. Et ça leur a fait apprécier la solitude. C'est-à-dire le fait de se retrouver, de pouvoir avoir du temps pour soi. Donc il y a cette... aussi ces deux aspects du numérique. Et puis une troisième question que je vous pose, quand on leur a parlé des questions qu'on leur posait, c'est quand vous avez dit que vous posez des questions, vous avez pensé à ça, ils nous disent, oui, quand le prof nous pose des questions, c'est qu'il pense qu'on ne suit pas. Et donc la question, elle est vue comme un intérêt, alors finalement, à l'université, comme un intérêt un peu scrutateur, mais du coup, est-ce que les questions que vous posez, vous, qui sont bienveillantes, est-ce que ce n'est pas aussi autre chose?
Sur ce point-là, pour moi, le plus important, c'est en fait expliquer pourquoi on pose la question, plus que la question elle-même. C'est-à-dire que on explique systématiquement la démarche à nos collaborateurs. On explique aussi, d'ailleurs, que cette démarche est toujours volontaire. Il n'y a pas d'obligation. Et d'ailleurs, on s'adapte. C'est-à-dire que si on voit que ça ne marche pas ou que ça incommode nos collaborateurs, on arrête. C'est aussi ça l'idée, hein, c'est qu'on s'adapte. Après, pour revenir sur la première question, qui est la question liée aux outils et aux éléments de stress, je reviens toujours à une chose qui, pour moi, est primordiale, c'est quand on va avoir un nouveau collaborateur qui va arriver dans une structure, on doit l'onboarder, c'est-à-dire vraiment créer un plan d'intégration. Et dans ce plan d'intégration, il y a toujours une étape qui est l'informatique. L'informatique doit être capable de nous fournir ce que moi j'appelle un schéma directeur de tout ce qui est possible de faire sur l'outil. Et ensuite, sur ces outils-là, systématiquement, on fait ce qu'on appelle des wish sessions qui sont enregistrées où on revient systématiquement sur des pratiques, sur comment on peut les améliorer. Et enfin, on parlait d'outils et d'écoute, chaque année, et là on est en plein dedans, on crée des workshops interdépartementales où chaque département avec des personnes qu'on a nommées vont discuter sur comment travailler mieux ensemble. La question du tooling, enfin des outils, revient. Et on leur donne aussi un budget. C'est-à-dire qu'ils peuvent aussi choisir un outil. Alors, ils doivent le défendre, évidemment, après la direction, c'est certain. Mais ils vont nous dire, voilà, nous, on veut cet outil-là parce qu'on est persuadé qu'il va nous aider à bien travailler avec l'ensemble des départements. Et dans ces cas-là, la direction met en place cet outil et c'est bien du choix des collaborateurs, pas de la direction. J'ai peut-être raté la deuxième question qui était la question liée à l'isolement, peut-être des...
Oui, ou là, au contraire, la socialisation, qu'est-ce qui ressort le plus?
Bah, c'est vrai que pour nous, c'était très compliqué parce qu'on voit dans les salariés qu'on a abordé en plein Covid, c'est principalement ceux qui partent. Sinon, c'est clair. Donc, on s'est rendu compte aussi que le côté événement et discuter avec des collaborateurs était quand même primordial. Donc, on n'a pas réussi à aborder correctement pendant le Covid. Alors, on a essayé, hein. Encore une fois, on essaye de créer beaucoup d'événements. Comme je l'ai dit, on fait des kick-off à distance, etc., mais ça reste un écran. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai mis en interne. Pour que, lorsqu'on fait une réunion qui n'est pas une réunion descendante, on active au moins sa caméra et son micro pour qu'il y ait un échange. Sinon, on est sondé, on arrête la réunion, et puis dans ces cas-là, on se voit en présentiel. Mais en effet, on a eu des cas très particuliers aussi parmi nos collaborateurs. C'est qu'il y en a qui se retrouvaient tellement seuls, même qu'ils étaient en couple, qu'ils ont divorcé. Il y a eu un certain nombre de divorces. On a eu des personnes aussi qui ont voulu déménager. Donc c'est aussi que on les accompagne là-dedans. On concerne des collaborateurs sur Nantes, dans le sud, et tous sur Paris. Donc c'est aussi comment venir manager ça. Et moi, je n'ai pas encore formule magique. Très clairement, pour moi, c'est un défi de pouvoir vraiment tous les intéresser à un objectif commun et qu'ils sont tous reconnus dans l'organisation. C'est un vrai défi. Et, malheureusement, on n'a pas encore la réponse et on essaie de s'adapter à chaque fois.
Parfait.
D'autres questions?
Alors, il y a deux questions derrière.
Alors, j'y vais, je vais y aller.
Alors, si.
Oui.
Pas de soucis. Vous êtes ici. Merci pour les interventions dans cette deuxième partie. J'avais deux questions. La première, c'est plutôt pour vous deux, sur la notion de confiance. Parce que vous l'avez pas mal introduite avec la notion de bienveillance et crédibilité. Mais traditionnellement, par exemple, en philo, on a plus insisté sur la notion de crédibilité, c'est la crédibilité de ce qu'on dit. Or, traditionnellement, la confiance, c'est plutôt la crédibilité de celui qui le dit. Hein, c'est-à-dire, c'est, pour la rhétorique, aitos, pathos et logos, bah, en fait, je crois ce qu'on me dit, parce que je crois celui qui me dit. Et je crois ce qu'on me dit parce que ce qu'il dit est vrai, ou je crois ce qu'il dit parce que ça veut mieux. Et donc, il y a la question de digne de confiance, en fait. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on incarne, en fait? Qui est la personne qui inspire la confiance? Donc, elle incarne une institution, elle incarne une relation affective, enfin bref. De quoi on est porteur pour que la parole qu'on va recevoir sera face aux, disons, de manière confiance, mais aussi source d'autorité. Enfin, c'est aussi très lié à la notion d'autorité. Et ça, j'étais surpris parce que c'est un petit peu absent de votre panorama, en fait, de la confiance. Et puis, ma deux, alors je sais pas si je fais la deuxième question maintenant, ou...
Qui fait les deux comme ça?
Professeur Volmar, j'ai bien aimé votre alternative liberté versus efficacité et la liberté de l'erreur. Mais justement, la notion d'erreur, c'est que c'est pas quelqu'un qui se trompe par rapport à un système qui a raison, c'est un couplage comme système qui n'a pas fonctionné. Parce que souvent, le problème qui se passe, c'est que le système a raison quand on est dans ses bornes de validité. Or, en situation... la difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on est bien dans ce que le système sait faire. Et c'est là où ça intervient la médiation avec l'humain, c'est qu'il faut optimiser le couplage où l'humain doit pouvoir s'appuyer sur la machine, mais en même temps en sortir. Et souvent, quand on constate dans les dialogues aux machines ou les situations de crise ou les erreurs techniques, c'est que, par exemple, la typique, c'est la personne en pilotage de salle de contrôle de centrale nucléaire, par exemple. S'il ne fait pas ce qu'on lui dit, qui c'est qui a tort? En fait, on s'aperçoit que c'est pas le système, c'est pas lui, c'est le couplage du système qui a pas été conçu dans l'optimisation de l'interaction. Alors, du coup, ça donne un petit point différent de l'ambivalence liberté de l'erreur, c'est que liberté du dysfonctionnement, en fait, sans forcément que ça soit une erreur. Mais après, il y a la question de la responsabilité, parce que là, je pense qu'en tant que joueuse, vous êtes intéressé à ça, c'est que le système, il est peut-être responsable du point de vue de ses concepteurs, mais le système, c'est un système. Donc, d'une certaine manière, même si l'erreur est partagée, parce que c'est une erreur de conception qui se traduit une erreur de performativité, en fait, du système au moment où on le met en œuvre, quid de la responsabilité lorsqu'on va pouvoir, justement, définir qui a eu raison de faire ça, qui a eu tort de faire ça, et ça renvoie à la question de la confiance, c'est que justement, on a peut-être une vision aussi trop individualiste de la responsabilité, parce qu'on fait un coupable. Or, le principe de la confiance, c'est qu'on assume l'erreur de ceux à qui on a fait confiance. C'est pour ça qu'on assume l'erreur de ses enfants, hein. Passage. Donc, on a une vision peut-être punitive de la responsabilité plutôt que de prendre en charge collectivement l'erreur qui est sortie du couplage du système. C'est pas complètement la faute de l'humain. Peut-être qu'il aurait fait, on aurait pu faire mieux, effectivement, mais le système a été mal conçu aussi. Donc, d'une certaine manière, chercher le coupable du service, comme souvent c'est le cas, ça, c'est pas suffisant. Mais, du coup, je me mets à votre place. C'est, en tant que juriste, comment penser cette responsabilité qui doit faire la part de la partage des torts, en fait. Et ça, je suis très content que ce soit votre métier, pas le mien, parce que je ne saurais pas répondre à cette question, mais mon sentiment, c'est que c'est quand même celle qui se pose, surtout avec ce que vous avez dit tout à l'heure sur la logique métier qui n'est pas forcément adéquate avec la logique des outils. Et donc, à ce moment-là, on voit bien que les sources de dysfonctionnement, on les multiplie, en revanche. Voilà, donc c'est un peu mes deux questions qui sont pas vraiment des questions, mais... Enfin, je suis prêt à entendre
vos questions là-dessus. Merci.
Alors, merci beaucoup pour cette question et cette remarque sur la notion de confiance. Alors, moi, dans mes travaux de recherche, qui sont des travaux de doctorat, je suis parti de George Simmel. George Simmel, il qualifie la confiance de Cohen de « off et boom ».« Off et boom », ça veut dire une suspension de rationalité. C'est le moment où un individu fait abstraction de sa rationalité de manière temporaire. Et donc, ce qui est intéressant lorsqu'on aborde la confiance, c'est la notion de, c'est le continuum qu'il y a entre défiance et confiance absolue. Défiance absolue et confiance absolue. Et dans ce continuum, ce qui est extrêmement intéressant, notamment en sciences de gestion, qui s'intéresse à la confiance intra-organisationnelle, c'est la notion, c'est en gros les deux parties prenantes. C'est-à-dire qu'il faut deux entités pour qu'il y ait une confiance. Et la problématique centrale en sciences de gestion, c'est la mesure de la confiance. Puisque si l'on a deux individus qui interagissent et si on s'intéresse à la confiance entre ces deux individus ou ces deux groupes d'individus, comment fait-on pour le mesurer si ces deux, si la confiance est la caractéristique même d'une relation entre deux individus ou deux groupes d'individus? Et donc, ce qui est assez intéressant et ce qui me trouve assez à travers finalement l'échelle de confiance qui a été mise en place par Goldpestler et qui a été créée à partir de plus de 3000 entretiens qui ont été effectués alors, principalement aux États-Unis, c'est que c'est justement cette notion de taille. Chez Simmel, il s'intéresse aux unités sociales. Et les unités sociales, ce sont des groupes d'individus. Et donc moi, dans les sciences de gestion, les groupes d'individus que l'on a, c'est principalement management collaborateur. Et donc dans cette échelle, la façon dont elle a été créée, c'est qu'elle permet de faire état de la relation qu'il y a entre l'unité sociale des collaborateurs et l'unité sociale du management qui est diffuse. Parce que quand on parle de management, on peut parler du haut dirigeant comme du manager direct. Et donc, comment les individus s'identifient, certains au management, donc en France ça paraît avec le statut cadre, et d'autres collaborateurs, je n'ai pas le statut cadre. Et donc lorsqu'on s'intéresse à la mesure de confiance, à travers justement le questionnaire de Goldpestler, c'est que on utilise justement le terme de management pour rendre état de cette relation de confiance entre ces deux unités sociales. Et donc, les questions qui sont à l'intérieur du questionnaire, justement, qui font état de cette confiance, elles ne mesurent pas, finalement, la dimension rationnelle, elles mesurent des comportements du management qui ont été réalisés dans le passé. Pourquoi ? Et c'est d'ailleurs une des problématiques centrales que l'on a de la mesure de la confiance, c'est qu'on ne peut pas la mesurer à l'instant T, on la mesure à partir de ce qui s'est passé dans le passé, puisque on donne sa confiance en raison d'une croyance. C'est-à-dire qu'on parle, la définition, c'est la dose de rationalité, mais c'est aussi une dose de croyance. C'est-à-dire que je fais un pas en avant vers le management parce que je me rends vulnérable, ça c'est la définition de la confiance envers le management, et je me rends vulnérable parce que j'ai une croyance envers les comportements que j'ai vécu dans le passé avec le management et qui vont arriver dans un futur proche. Et donc, par rapport à justement cette notion de caractérisation de la confiance, eh bien, on est obligé, si on veut la mesurer, je reviens finalement aussi à votre question, c'est pour ça que je me tourne à vous aussi, on est obligé de mesurer ce qui s'est passé dans un passé très récent. Et on a, et d'ailleurs, je l'ai vu, moi, quand j'ai fait un retour dans la littérature sur ces échelles, les échelles qui mesurent la volonté de se rendre vulnérable, elles sont peu adoptées parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à mesurer la confiance. Alors, un dernier mot sur la confiance, la problématique, c'est qu'elle est intangible. Et donc, et pour finir justement par rapport à ce que j'ai présenté à la fin de Smart Working, la difficulté centrale que je voulais aborder dans mes travaux de recherche, c'est quelle est la part de la confiance dans la performance de ces entreprises où il fait bon travailler. Parce qu'il y a 11 articles scientifiques qui traitent spécifiquement de la performance de ces entreprises où il fait bon travailler, mais que finalement, on n'arrivait pas à savoir quelle était quel est le facteur qui pourrait être contributif. Et donc, je me suis intéressé tout simplement à prendre ce questionnaire, à aller chercher la dimension, le facteur explicatif principal. Et c'est là que je me suis rendu compte, sur les plus de 400 000 répondants, que c'était la confiance envers le management, qui au niveau organisationnel est considéré comme un capital relationnel, et qui est discuté en tant que capital intangible. Donc, voilà, bon, c'est une discussion qui est un petit peu là.
Allez, on prend la dernière question de Yves-Georges Melin pour conclure sur cette, ces différentes interventions.
Merci beaucoup pour cette intervention et cette intervention. Le sujet est extrêmement vaste et l'éclairage est suffisamment intéressant. Je me suis mis une remarque par une question. La remarque, c'est vis-à-vis des structures aujourd'hui, j'entends beaucoup cela, et vous l'avez évoqué, vous connaissez parfaitement, deux tiers des apprentis qui sont dans le gris ne restent pas dans le cours, c'est des actes formés. Donc, je reviens sur ce sujet qui est évidemment la capacité à fidéliser des talents, les intégrer dans une entreprise. C'est pas parce qu'il y a Babyfoot qu'on y reste plus, et c'est pas parce que l'organisation est une grande place de 440 que ça reproduit un souci. C'est un vrai sujet, je l'ai mis, la réponse, c'est ça, mais je crois que ce qui va voir qui apporte des éclairages, mais à d'autres. Vous avez évoqué tout à l'heure un sujet qui, moi, je trouvais extrêmement intéressant, c'était la notion d'évaluation, de flexibilité, liberté, tous ces éléments-là, qui sont nouveaux hein, dans l'approche finalement managériale. Et je me mets, comme je suis dirigeant, j'ai une PME de 300 salariés, et évidemment, cette problématique est au cœur de l'organisation et des efficiences que j'ai appris. Je mets une direction vers tout, ça s'appelle efficience numérique. Ce sujet est vraiment au cœur de notre problématique, et je pense que je ne suis pas le seul. Et je voulais vous poser la question, et peut-être, ça suscite peut-être une thèse. Je glisse le sujet vers mon cher Victor. Comment les managers, dit intermédiaires, les managers, vous évoquiez tout à l'heure le point important que pèse aujourd'hui, dont la direction se rend compte au quotidien, de l'importance du manager intermédiaire, des managers de proximité. Il y a un élément qui est assez dur aujourd'hui, qui va être, de mon point de vue, assez croissant en termes de prévalence. C'est l'outil et les modalités d'évaluation par ce manager de la quête et de la finalement. Je reprends le mot, l'efficience, l'efficacité, la performance. Non, mais ces mots sont jamais très beaux. Mais je parle à un syndicaliste et surtout avec une personne qui est forcément confrontée à ces sujets au quotidien. On voit le collaborateur avec tout ce qu'on vient de se dire. Mais imaginons aujourd'hui quel est le poids de l'évaluateur. Et ma question est, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer finalement les modèles d'évaluation et comment peut-on outiller numériquement? Je vais le voir parce qu'il y a plein de solutions numériques et j'en vois plein, j'en utilise et on en a tous. Les outils d'entretien à l'ennemi, les CRH hyper ERP, j'interroge peut-être que, oublie ce sujet que je voulais évaluer imprimement, c'est comment le manager, en situation de manager, va être outillé pour apprécier et évaluer l'efficience, la performance, l'engagement, tous ces éléments, et donc le résultat, y compris lié à des évolutions internes, des rémunérations, ainsi de suite. Le modèle n'est, à mon avis, pas inventé. Je crois que chaque manager, chaque direction va faire du mieux qu'elle pourra, mais les outils, pour revenir tout à l'heure à la partie outils, vont être certainement décorrélés aujourd'hui des réalités vécues 2 ans après des modalités de hyper-flexibilité. C'est pas un CRH à l'ancienne qui va vous organiser des évaluations dans un monde hyper numérisé. Alors, je vous pose la question en même temps, peut-être que c'est une façon d'ouvrir ce chemin aussi. Comment utiliser les managers en intermédiaire face à des transformations des organisations dans leurs équipes et comment parvenir à ouvrir ces évaluations?
Peut-être, Eric, pour rebondir et donner des perspectives. Donc, vous allez répondre à deux?
Oui, je vais répondre à deux.
Très bien. Alors, on se fait réunir.
Merci. D'abord sur la partie SIRH, alors on est d'accord que le SIRH est un outil, mais que la personne qui utilise cet outil, qui est le manager, doit être formé. Comment justement évaluer un collaborateur? On commence à passer sur une décision qui est de dire, je recrute un manager, c'est vrai, mais je vais aussi le former et l'accompagner sur cette partie SIRH. Je reviens aussi sur un indicateur par rapport au sachant, nous notre indicateur il est assez simple, parce qu'on a un métier plutôt simple finalement, puisqu'on paye les gens, si le client est satisfait et qu'il n'y a pas de grève chez lui, c'est que ça se passe bien. Très clairement, parce qu'on le voit très très vite quand on fait une erreur. Je vous assure, quand on compte mal un temps qui est répercuté en paye, vous le savez très très vite. Parce que ça arrive très vite. En général, c'est vendredi fin de mois où ça arrive. Sinon, c'est pas rigolo. Donc, on identifie comme ça les sachants, puisqu'on a ce qu'on appelle un chatin qui s'appelle le NPS. Donc, on a un INPS et NPS, donc c'est Net Promoter Score. On va demander à nos clients si nous recommanderiez auprès de leurs confrères. Et la même chose pour nos collaborateurs. Tous ces indicateurs-là nous permettent d'identifier justement les lieux où ça va bien se passer et mal se passer. Après, en termes d'organisation, je sais que c'est assez français d'ailleurs de essayer de pointer un peu ce qui va pas et la recherche de coupables, donc plutôt dans la recherche de solutions. On a horreur en fait de pointer les coupables pour faire chercher des solutions, même si les coupables il y en a, et que ça se reproduise. Mais en termes d'organisation, on a mis en place un système que l'on appelle de bulle, c'est-à-dire qu'on a cassé un peu la hiérarchie type pyramidale qu'on peut avoir avec X strates, parce que j'entends parler de manager de transition, de manager de proximité. Dans nos équipes, nos managers, au maximum 10 personnes. Max. Ça s'arrête là. Vous avez le board, 5 personnes, et ensuite un ensemble de managers. Évidemment, c'est un coût, parce qu'il y a beaucoup de managers. Donc il faut que la direction accepte de mettre ce prix-là. Mais je vous assure que la contrepartie vaut le coup, puisque encore une fois, on est proche de nos équipes, et tout ça s'organise seul, en fait. Donc moi, je fais beaucoup confiance au groupe. On n'a pas besoin d'outils pour détecter que quelque chose se passe mal. On le vit clairement au quotidien. J'ai jamais le client nous appelle, hein, nous disent. Et puis en interne, on est proche de nos collaborateurs. Donc un SIRH, encore une fois, c'est un outil. Et sur le SIRH, oui, on travaille beaucoup d'ergonomes pour travailler la question de change management, puisqu'il faut que n'importe qui puisse s'approprier les outils et les comprendre. Sinon, l'outil fonctionne. Donc on travaille avec des ergonomes et on travaille avec des feedbacks et on s'améliore. On parle d'agilité, c'est un peu la mode. Bah, c'est ce qu'on fait. On change systématiquement. Donc, faut accepter, par contre, de pouvoir changer. Je suis dans un métier où il y a évidemment des problèmes de génération. Dans notre métier, la pyramide d'âge, entre 25 et 30 ans, je suis parmi les plus vieux, alors que l'estime est très jeune. Donc, forcément, pour nous, c'est plus simple. Mais j'entends que dans certaines organisations de type industriel, ça peut être un peu plus compliqué. Et c'est pour ça qu'on travaille avec des ergonomes pour rendre les choses faciles. La souris, aujourd'hui, je me rends compte, c'est un vrai frein. Hein. Les personnes ne savent pas que c'est une souris. Donc, comment répondre à un questionnaire d'auto-évaluation qu'on va recevoir à la maison si déjà on n'a pas l'outil, qu'on ne sait pas l'outil du soin. Je vous rejoins, c'est il y a un vrai travail de formation.
Éric,
oui, rapidement.
Et conclure éventuellement.
D'accord, donc rapidement et conclure. D'abord, l'évaluation, ça, c'est toujours une affaire compliquée puisque ça dépend des qualités du manager en termes de relations, ça dépend du contexte dans lequel il est, parce qu'évaluer les gens pour leur dire qu'ils travaillent bien et rien faire après, c'est parfois compliqué. Donc ça reste. Le numérique a fait courir peut-être un risque supplémentaire, c'est qu'on peut avoir une évaluation objective entre guillemets, c'est-à-dire que si on peut mesurer des temps de travail, des performances, on a beaucoup d'indicateurs, on peut vraiment évaluer très très simplement et du coup très très mal. Donc ça c'est un risque numérique. Mais sur le fond, il me semble qu'il y a un problème à essayer de résoudre dès qu'on peut sur le numérique, c'est que je pense qu'on peut, c'est difficile de faire de l'évaluation si on ne sait pas ce que font les gens. L'analyse du travail, c'est une discipline qui s'est perdue dans les entreprises depuis déjà très très longtemps. Et avec le numérique, on la retrouve pas. Et je pense qu'il y a un gros travail à faire autour de ça, savoir ce que font les gens en fait. Mais du coup, avec des questions qui vont évidemment impliquer les juristes, parce que les gens travaillant chez eux, qu'est-ce qu'on va leur poser comme question sur les conditions de travail chez eux? Donc il y a un gros travail sur ce que font les gens. Ça va amener des questions de qualification. Mais si on fait pas ce travail-là, l'évaluation va devenir extrêmement compliquée parce que on saura plus vraiment à qui on a affaire. Voilà. C'est quelques idées. Donc je.
Bah écoute, on est vraiment dans les temps là pour arriver maintenant dans la phase de conclusion.
Bien, ouais. Je voudrais vous remercier tous de votre présence, donc les intervenants de ce matin. Donc merci beaucoup au nom de Catherine et de moi. Merci à vous qui êtes présents ici. Vous avez assisté à un webinaire de la chaire Godot. Donc le webinaire, c'est un des modes de fonctionnement qu'on a. On en a deux. On fait de la recherche et là on a terminé deux recherches et on va en terminer une troisième au mois d'avril. Mais ça demande du temps. Vous savez. Et puis on développe des webinaires pour permettre l'échange, ce qu'on a eu ce matin, permettre des rencontres interdisciplinaires, intergénérations aussi. Sur numérique, c'est majeur de faire des rencontres intergénérations, parce qu'en fait, on n'a pas tous la même expérience numérique, des perceptions différentes. Donc les choses, tout ça va continuer. Alors, à l'avenir, on a une conférence qui se tiendra en juin à l'université de Nanterre organisé par la chaire avec Cyril Goudemar qui est l'IRER, qui est le laboratoire qui co-dirige sur le thème de droit du travail et numérique. Donc là, on sera, aujourd'hui, on a été très très ouvert, on va rester ouvert, mais dans le domaine du droit. Et puis, plusieurs webinaires vont être organisés, donc là, il faudrait suivre sur la fondation ce qu'on va faire, mais on a des webinaires en préparation. Et notamment, il y aura les webinaires et les conférences, puisqu'en fait, je pense qu'on va continuer cette modalité où on a des gens à distance et des gens en présentiel.
C'est très bien, fichier ça.
Où on présentera les travaux de recherche que l'on a fait. Donc les premiers qui viendront, ça sera sur le thème corps et travail et sur la pratique du sport pour les salariés en télétravail. Donc c'est un lien avec le smart working d'une certaine manière, un prolongement. Et puis la recherche que l'on a faite sur le rapport des étudiants en master à l'environnement numérique. Donc il y a un sujet réellement important, puisque les étudiants de master, c'est nos étudiants, donc on y fait attention. Mais c'est aussi des gens qui, très rapidement, vont arriver dans les entreprises, dans les organisations. Et donc, on apprendra par eux beaucoup de choses sur le numérique. Voilà, merci encore à tous. Catherine, tu veux ajouter quelque chose?
Non, rien du tout, c'est très bien.
Et tu connais mon côté challenge, j'ai noté le chantier sur la pratique du sport, hein, qui va être un chantier. Alors, c'est vrai que vous avez dans les réseaux des alumni quelqu'un qui était étudiant à l'Université Paris Nanterre, qui n'est autre que le secrétaire général de la Fédération française des Fédérations françaises du sport en entreprise. Donc, d'accord. Le challenge, ce sera de l'inviter au prochain webinar. En tant qu'ancien alumni, il va se faire un plaisir d'être présent. Et c'est vraiment le sport en entreprise. C'est la Fédération française du sport en entreprise, dont le siège est en Paris 15e, et que je connais très bien, et qui pourra se joindre à vous, j'espère en tout cas au prochain webinar, ou on va dire conférence digitale, on va dire plutôt. Très bien. Oui. Merci à vous tous.
Très bien. Merci à tous. Donc, au revoir à ceux qui sont à distance. Et merci d'avoir été avec nous ce matin.
Bon, mais c'était bien. Alors, oui, je coupais. Hein.
Je coupe.
Oui, mais c'était bien.
Oui.